Bonjour, je m'appelle Marc, bienvenue au premier épisode du Bonheur pour tous, le podcast pour réapprendre le bonheur. Pourquoi est-ce que je dis réapprendre ? Parce que je suis persuadé que chacun de nous vient au monde prêt pour être heureux, et que si on reprend contact avec ce naturel qu'on a appris à oublier mais qui est encore en nous, alors on peut retrouver le bonheur, parce que notre nature c'est de vivre heureux. Donc, ici, mon but est de partager avec vous les meilleures informations que j'ai trouvées pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, je vous ai préparé le premier chapitre du livre audio « La communication non violente » de Marshall Rosenberg. C'est un livre audio en anglais que je suis en train de traduire en français, parce que parmi tout ce que j'ai lu ou entendu dans ma vie, c'est ce que dit Marshall qui me paraît le plus important à savoir pour être heureux. Chapitre 1 : Les origines de la communication non violente. Voici ce que dit Marshall Rosenberg. Bonjour, je m'appelle Marshall Rosenberg, je vous suis reconnaissant pour l'attention que vous m'accordez, et je voudrais, en réponse, partager avec vous certaines choses que j'ai apprises sur la façon d'établir le contact avec d'autres personnes. Des choses qui ont été très précieuses pour moi, et je suis ravi que tant de gens partout dans le monde me disent combien ces choses ont été précieuses pour eux aussi. Avant de vous parler de l'utilité du processus de communication non violente, c'est comme ça que j'ai appelé ce que je vais partager avec vous ici, je voudrais vous dire comment je me suis retrouvé à m'intéresser à ce genre de choses. J'ai grandi à Detroit, Détroit, dans l'état du Michigan. Ma famille a emménagé là-bas juste à temps pour les émeutes raciales de 1943. Le quartier où on habitait était en plein centre de ces émeutes, et 4 jours après le début des émeutes dans notre quartier, 30 personnes ont été tuées. On est resté enfermé chez nous pendant ce temps, on ne pouvait pas sortir pour des raisons de sécurité, et cet événement m'a enseigné une leçon primordiale, qui a un grand effet sur ce que je vais partager avec vous. Ça m'a fait réfléchir à une question importante. Qu'est-ce qui arrive aux gens? Qu'est-ce qui nous arrive? Qui fait qu'on en vient à prendre plaisir à être violent, à user de violence l'un envers l'autre? À cause de choses comme la couleur de la peau, des noms de famille, des religions. C'est bien sûr quelque chose que je trouvais très effrayant quand j'étais enfant, et depuis, c'est resté tout aussi effrayant pour moi. Et au cours des années, j'ai été très intéressé par l'étude de cette question. Qu'est-ce qui nous arrive qui fait qu'on s'engage dans cette direction de la violence? En même temps que j'étais exposé à cette violence dans mon quartier, je suis content. Très content d'avoir eu la chance de voir que ça n'est pas notre vraie nature. J'ai eu suffisamment de personnes autour de moi qui savaient donner du fond du cœur et être là pour les autres, pour savoir que cette violence n'est pas vraiment notre nature. J'ai eu la chance de vivre auprès de gens de ma famille qui avaient beaucoup de compassion. J'étais heureux d'avoir des amis qui avaient des familles compatissantes. Donc je savais qu'il y a une façon de se comporter qui nous est plus naturelle. Mais cette question est restée en moi, de savoir ce qui nous arrive, qui nous éloigne de notre nature compatissante, et savoir ce qu'on peut faire pour rester en contact avec notre nature compatissante, quoi qu'il se passe autour de nous. Quand j'ai décidé qu'il était temps de choisir pour moi quoi faire dans ma vie, j'ai voulu offrir ce que je pouvais apprendre sur ces deux questions, qui sont qu'est-ce qui nous transforme en personnes violentes, et qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver notre nature compatissante? Personne dans ma famille n'était jamais allé à l'université, et j'ai eu une opportunité pour y aller. Mais je me suis demandé quelle profession pouvait m'aider dans cette direction. J'ai choisi la psychologie, pensant que les gens qui sont violents doivent être malades mentaux, et que peut-être la meilleure contribution que je pouvais apporter au monde était de guérir ces maladies qui rendaient les gens violents. Donc, je suis allé à l'université et j'ai obtenu un diplôme de docteur en psychologie clinique. Mais au cours de mes études, j'ai été exposé à un professeur qui m'a aidé à voir certains des dangers des concepts qui sous-tendaient la psychologie clinique que l'on m'enseignait. Il m'a aidé à voir que peut-être la maladie mentale était une mauvaise métaphore, et que le phénomène pouvait être mieux compris non pas comme une maladie, mais comme la façon dont les gens sont éduqués par la culture dans laquelle ils vivent. Et que peut-être donc ce qui était nécessaire n'était pas une intervention thérapeutique, mais que ceux dont les gens qui étaient violents avec eux-mêmes et avec d'autres avaient besoin étaient une autre sorte d'éducation, qui transformerait la façon de penser qui les amenait à souffrir et à vouloir faire souffrir les autres en une façon de penser qui favorise la compassion et le contact humain. Il me communiqua ceci juste avant que j'obtienne mon diplôme, alors que je venais de passer 9 années à l'université à apprendre une approche basée sur la pathologie et comment soigner cette pathologie. En voyant ce mythe de la maladie mentale comme il l'appelait, et comme Thomas Sass, le psychiatre, l'appela dans son livre du même nom, en voyant ses limitations, j'ai demandé à ce professeur « Alors, qu'est-ce que vous proposez à la place ?» Et il me répondit « Ça, c'est votre travail, de trouver une approche qui fonctionne mieux que de voir ces problèmes comme des maladies. » Donc une fois mon diplôme en poche, je me suis mis à regarder les choses avec un point de vue différent. Au lieu de penser que la violence dans le monde était causée par une quelconque maladie mentale, d'adopter une perspective plus large, d'être ouvert au fait que ce que mon professeur avait dit pouvait être vrai, que le problème venait de la façon dont les structures sociales, les gouvernements, éduquent les gens d'une façon qui mène à la violence. Donc j'ai décidé de commencer dans la direction de qu'est-ce qu'il nous faudrait pour garder notre nature compatissante, quelle que soit la sorte de structure sociale dans laquelle nous agissons. Et quelle sorte de choses nous aurions besoin d'apprendre lorsque nous voyons des structures qui nous éduquent à être violents, qui contribuent à la violence, comment est-ce qu'on peut les transformer? Et donc, j'ai lu des comparaisons de religions pour voir ce que les religions de base sur la planète, si je pouvais trouver des points communs à ce qu'elles disaient. J'ai aussi étudié des gens qui vivaient d'une façon que j'appréciais, et j'ai essayé de voir ce qui les rendait différents. Et j'ai aussi profité des recherches que Carl Rogers, le psychologue, a faites pour chercher à identifier les composants de base d'une relation régénérante, ce qui contribue à une relation qui aide les gens à évoluer et à se développer et à guérir de leurs blessures. Depuis ces différentes directions, j'ai assemblé le processus que j'appelle maintenant communication non violente. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bonheur pour tous. Si le podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et s'il vous plaît, passez sur iTunes pour lui mettre une note pour que plus de gens soient au courant. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires ou vos questions sur bonheurpourtous.info ou sur la communauté Google+ du podcast et comme ça entrer en contact avec des gens qui, comme vous, veulent participer à aller vers plus de bonheur pour tous. Et sur le site bonheurpourtous.info, vous avez aussi la possibilité de soutenir le podcast en faisant un don. Ça m'encouragera pour la suite. Dans le prochain épisode, on continuera avec le chapitre 2 de la communication non violente. À bientôt !